La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure des voix de l'économie. François, l'assurance mise à mal par le changement climatique, vous en parlez avec votre invité.
Bonjour Céline Grislin-Letrémy.
Bonjour François.
Bienvenue, vous êtes chercheur affilié au CREST, le centre de recherche en économie et statistiques, et vous signez des billets de blog pour la Banque de France. Alors le changement climatique, c'est donc le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Il fait que les catastrophes naturelles sont à la fois plus fréquentes, plus violentes, leur coût augmente naturellement avec ce que je viens de dire, à tel point que c'est tout l'univers de l'assurance qui est remis en question. D'abord, on parle d'un coût estimé de 270 milliards de dollars, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, au niveau mondial. Alors qu'en 1970, si on prend des dollars comparables des dollars 2020, il était de 1,3 milliard. Donc on a une augmentation significative très très importante, qui est due à la fois au changement climatique et aussi à l'augmentation de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes et d'entreprises qui s'installent dans les zones exposées.
Il y a plus de densité de population sur les littoraux notamment, ce genre de phénomène. Rappelez-nous, d'où vient notre système d'assurance? Comment il s'est construit?
Alors, notre système d'assurance, il date de 1982, il a été créé sous Mitterrand. L'idée du législateur à l'époque, c'est de rationaliser toutes les aides nationales, locales qui existaient. Certaines dataient de la Révolution française. Et de les remplacer pour indemniser les victimes des catastrophes naturelles par un régime d'assurance. Et donc, ce qu'imagine le législateur à l'époque, c'est d'intégrer dans des contrats multirisques habitation et entreprise, donc pour les logements des particuliers et les bâtiments des entreprises, une garantie catastrophe naturelle dont la tarification ne reflète la valeur assurée mais pas l'exposition risque, puisque ça remplace ces aides qui étaient financées par des impôts qui ne dépendaient pas de l'exposition risque.
Donc c'était relativement universel selon le territoire.
Voilà, c'était uniforme, c'était une tarification uniforme et pour que les assureurs puissent proposer ça, l'État leur propose de se réassurer auprès de la Caisse centrale de réassurance avec des contrats de réassurance qui sont très protecteurs.
Donc tout cet équilibre tient jusqu'à présent. Donc ça, c'était 1982, mais là, on est en 2024 et c'est mis sous tension.
Oui, alors, il faut quand même rappeler que dès 1982, le législateur se dit qu'il ne faudrait tout de même pas que les gens aillent trop s'installer justement dans les zones exposées qui peuvent être attractives, comme vous le disiez, près du littoral, des rivières. Et donc, dès 1982, il met des interdictions de construire, des zones rouges d'interdiction de construire, dans les zones très exposées, avec les plans d'exposition risque qui sont devenus après les plans de prévention des risques. Mais effectivement, depuis 1982, le régime offre une très très bonne garantie pour un coût très très abordable, hein, à peu près une vingtaine d'euros par an pour les particuliers. Mais il est mis sous tension du fait du changement climatique notamment.
Alors l'un des sujets clés en France, déjà très visible aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le retrait gonflement, toutes ces fissures qui apparaissent sur des logements du fait des épisodes de sécheresse. Comment prendre en compte déjà ce risque qui est manifeste et qui est déjà forcément qui tape à la porte des assureurs?
Oui, alors le retrait gonflement des argiles, c'est le fait donc que dans le sol, il y ait des argiles dont le volume dépend beaucoup de la teneur en eau. Et donc ça crée des pressions sur le bâti, des fissures et ça peut aller jusqu'à l'effondrement. Alors on n'est pas le seul pays à être exposé, mais on est un des rares pays à le couvrir dans un régime d'assurance. Et de fait, en France, on a à peu près 10 millions de maisons en zone argileuse, à peu près la moitié de l'habitat individuel, un peu plus. Et historiquement, alors que c'était les inondations, le premier gros péril qui pesait sur le régime, catastrophe naturelle, maintenant c'est la sécheresse ces dernières années, ce qui explique notamment qu'il y a une augmentation de primes qui a été décidée récemment et qui sera effective l'an prochain.
On dit que la soutenabilité même du système d'assurance que vous avez décrit est en jeu. Comment faire face? Est-ce que vous commenciez à parler des coûts? Est-ce que finalement tout va petit à petit coûter de plus en plus cher? Et quelle va être la part potentiellement de l'État dans cette grande équation?
Alors actuellement, enfin, et même depuis le début de l'instauration du régime en 1982, les assureurs ils sont exposés jusqu'à leur encaissement de primes par les contrats très protecteurs offerts par la Caisse centrale de réassurance. Après, c'est la Caisse de réassurance qui paye tout le reste. Et quand 90% des réserves de la Caisse centrale de réassurance sont entamées, elle peut faire appel à la garantie de l'État. Parce que la Caisse centrale de réassurance, c'est une société privée dont l'État est le seul actionnaire. Donc en fait, c'est déjà la Caisse centrale de réassurance, et donc en fait, in fine, l'État, qui porte le risque.
L'État est déjà assureur en dernier ressort.
L'État est déjà assureur en dernier ressort. Et après, effectivement, il faut quand même réfléchir à des moyens de conserver la soutenabilité du régime. Et par exemple, sur les retraits et gonflements des argiles, eh ben, on fait déjà pas mal de choses, et on peut continuer évidemment à améliorer. On fait pas mal de choses pour gérer le stock de maisons, c'est-à-dire les maisons qui sont déjà construites. Hein, les ingénieurs ont montré qu'on pouvait faire beaucoup de mesures horizontales pour gérer l'environnement, la végétation, le réseau d'eau pluviale pour diminuer le risque. Et puis il y a la loi Elan de novembre 2018 qui réglemente pour les nouvelles constructions en imposant obligatoirement une étude de sol en zone argileuse et après de construire des fondations conformément à cette étude de sol.
Et parce qu'on s'interroge sur, vous parliez de 10 millions de maisons, mais au-delà de ça, sur les zones vraiment très à risque, on se demande que faire des gens qui sont là et qu'on ne peut pas mettre dans d'autres maisons parce qu'on a aussi par ailleurs un problème de construction.
Oui, en fait, la question de la gestion de l'existant, elle ne se pose pas que pour le retrait et gonflement des argiles. Et d'ailleurs, elle ne se pose pas qu'en France. C'est vraiment une question qui est commune à tous les pays. C'est que faire des gens qui sont déjà installés dans des zones exposées et dont, dont l'exposition va augmenter encore avec le changement climatique pour la plupart des aléas. Et alors là-dessus, il y a déjà des choses qui existent et puis encore des choses qu'on peut améliorer. Il y a déjà un système d'expropriation et d'indemnisation qui est prévu par un fonds de prévention qui s'appelle le fonds Barnier. On a été aussi plusieurs à proposer de lever l'obligation de reconstruction sur place qui est prévue dans les contrats d'assurance pour permettre à un assuré qui a son bien complètement détruit d'utiliser l'indemnisation de l'assureur pour reconstruire ailleurs dans une zone moins exposée. Et puis, alors autant nous, on ne joue pas trop sur le montant de la prime, hein, comme on le disait au début, mais il y a eu des modulations de franchise qui ont été mises en place, avec notamment un bonus pour les entreprises de plus de 300 mètres carrés, dont la franchise est réduite, si elles font des mesures de prévention. C'est la loi Baudu de décembre 2021. Et il y a des propositions par la Caisse centrale de réassurance, par le dernier rapport de la mission sur l'assurabilité des risques climatiques, pour faire une sorte de malus pour les particuliers.
C'est très intéressant. Ça faut expliquer ce que serait, s'il était mis en place, ce système de bonus-malus qui jouerait effectivement sur l'assurance.
Alors, les propositions qui étaient faites, c'était de faire une sorte de diagnostic de résilience climatique, un peu comme un diagnostic de performance énergétique du logement.
Ça, tout le monde voit ce que c'est, le DPE, la petite étiquette.
De proposer des aides, mais conséquentes, hein, pour que les gens puissent faire des mesures de prévention. D'ailleurs, le rapport parle notamment d'une plateforme d'aide un peu comparable à MaPrimeRénov. Mmh. Et ensuite, si les gens ne faisaient pas les mesures de prévention qui étaient demandées, à ce moment-là, par exemple, de multiplier par 3 leur franchise.
Et est-ce que ça permet, est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers à ce genre de système bonus-malus si on encourage, entre guillemets, par ce système, l'assurabilité des zones qui sont à risque ? C'est compliqué à calculer, peut-être.
Non, je dirais que c'est plus facile, peut-être, de jouer sur la franchise, même si elle intervient une fois que les gens sont sinistrés, donc c'est un petit côté pénalité. Peut-être que sur la prime, parce que ce qu'on voit dans la plupart des pays étrangers, c'est que quand les primes d'assurance sont trop élevées, et notamment parce qu'elles augmentent du fait du changement climatique, les gens ont tendance à ne plus s'assurer. Mmh. Et ce qu'on voit par exemple en Allemagne et au Canada, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assurés, et dans ce cas-là, il y a des aides publiques assez coûteuses, hein, qui pèsent lourdement sur les finances publiques, qui sont débloquées pour les victimes non assurées. Donc je pense que c'est peut-être plus simple de jouer sur la modulation de franchise que sur une forte modulation de primes pour éviter cet écueil de devoir débloquer des aides onéreuses pour les victimes non assurées.
Autre sujet colossal, c'est celui des Outre-mer, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Quelle est la spécificité ?
Alors, en fait, un des gros atouts du régime, c'est le fait qu'on ait beaucoup, beaucoup de personnes qui sont assurées. C'est vrai, en France métropolitaine, on a par exemple 97% des ménages qui sont assurés, alors que la moyenne au niveau mondial, c'est 40% des pertes assurées, avec des disparités entre les continents, mais on a en Europe, comme en Amérique du Nord, 58%. Mmh. En Outre-mer, les gens sont moins nombreux à être assurés. C'est entre, alors sauf à Mayotte où c'est 6%, mais sinon c'est entre 50 et 70%. Donc c'est inférieur au taux de souscription de la métropole, mais c'est largement supérieur aux voisins d'Amérique latine et des Caraïbes, qui sont le continent le moins assuré au monde, même derrière l'Afrique, avec 11% seulement des pertes assurées. Donc l'enjeu pour l'Outre-mer, c'est qu'ils sont beaucoup plus exposés physiquement, bien sûr, aux catastrophes naturelles et moins nombreux à être assurés.
Aux ouragans, aux cyclones, oui.
Et ça tient au fait que, eh bien, bah, comme en Allemagne ou au Canada, en fait, il y a des aides qui existent et donc qui dissuadent les gens de s'assurer, parce que pourquoi payer une prime d'assurance si on peut être indemnisé par une aide sans payer de prime ? Et aussi parce que l'habitat est de moins bonne qualité. Et là-dessus, il y a vraiment eu sur ces deux points énormément de progrès qui ont été faits, notamment par les acteurs locaux, pour la promotion de l'assurance, la qualité de l'habitat, qui explique qu'on a des progressions en termes de points de souscription de l'ordre de plus de 10 points en 11 ans, donc assez significatif. Donc très encourageant.
En tout cas, est immense et merci beaucoup de nous l'avoir explicité. Céline Grislin, Le Trémy. Je rappelle que vous êtes chercheur affilié au CREST et on peut vous lire donc sur le site de la Banque de France puisque vous signez des billets de blog pour eux. Merci beaucoup d'avoir été dans les voies de l'économie ce matin en direct. Très bonne journée.
François, à demain, 6h pour 1h15 d'actualité économique. Dans 3 minutes, David Doucan, les coulisses de la politique. David vous explique comment certains anticipent déjà un rapprochement entre Les Républicains et Renaissance au lendemain des européennes. Radio Classique, il est 7h.